L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il y a toujours un débat autour du fait d'être végétarien, pas végétarien. Nous sommes tous issus d'une culture dans laquelle manger de la viande est normal, plus ou moins. Manger de la viande jusqu'à en manger deux fois par jour. Et puis, on nous dit très clairement que pour l'écologie, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais aussi, pour son corps, c'est pas la meilleure chose à faire. Et puis, on nous parle aussi de la souffrance de ces animaux auxquels on essaye de ne pas trop penser parce qu'on les met à distance. Aujourd'hui, je reçois Hugo Clément, qui est un journaliste qui s'est spécialisé sur l'écologie et a pris en particulier ce sujet autour de manger des animaux. Et donc, on va parler avec lui sans jugement de qui que ce soit. Moi, je suis encore omnivore, je mange aussi de la viande de temps en temps, donc on n'est pas dans un jugement radical de « il faut absolument devenir végétarien », c'est pas ça. Mais pour essayer de comprendre comment lui, il a arrêté de manger de la viande, et puis peut-être de mieux comprendre cette problématique autour justement de la souffrance animale, autour de la santé, autour de l'écologie, et faire le tour de cette question, ça me semble primordial. Donc je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Hugo.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va très bien, et toi ?
Ben moi ça va bien, mais j'étais un peu inquiet parce que j'ai vu sur un magazine que t'étais anti-joie de vivre.
Alors du coup, ça m'a inquiété. Ah oui, moi je ne supporte pas tout ce qui est joie de vivre, tout ce qui est bonheur, je suis totalement opposé à ça. Donc j'aimerais bien qu'on ne rie pas pendant ce podcast et qu'on reste très sérieux et très premier degré, s'il te plaît.
Ça va être difficile, mais on va essayer. On va parler de pas mal de sujets. Toi, tu t'es beaucoup positionné sur... le végétarisme. J'aimerais comprendre, parmi toutes les raisons pour lesquelles on mange moins de viande aujourd'hui, ce qui est quand même une réalité, c'est laquelle, toi, qui t'a touché et qui t'a donné vraiment envie de passer d'un état de carnivore à un état de végétarien ?
Alors, d'un état d'omnivore,
un état,
on va dire.
Omnivore, pardon, excusez-moi.
Autre chose que de la viande, mais c'est vrai que moi, je mangeais beaucoup de viande et beaucoup de poissons. Surtout beaucoup de poissons, d'ailleurs, parce que mon père fait de la chasse sous-marine. Donc, depuis que je suis tout petit, avec mes frères et sœurs, on a été habitué à manger le poisson qu'il allait pêcher sorti de l'eau, quoi. Et en fait, c'est un changement qui s'est fait progressivement. Moi, j'ai jamais été pendant mon adolescence ou le début de la vingtaine particulièrement intéressé par ces questions-là. C'est un truc qui me passait un peu au-dessus de la tête, la question animale. Je pouvais d'ailleurs faire partie des gens qui se moquaient même des végétariens ou des véganes avec les moqueries habituelles qu'on connaît. Et en fait, c'est à travers mon métier que j'ai évolué là-dessus, à travers les reportages qui m'ont amené à être confronté à l'élevage intensif, aux gens qui travaillent dans les abattoirs, aux ravages de la pêche dans certains endroits du monde. Et petit à petit, c'est des couches qui se sont accumulées et qui m'ont poussé à me renseigner sur la question, à acheter des bouquins, à lire des études sur l'impact de l'élevage intensif sur l'environnement, la biodiversité, à me renseigner sur l'intelligence, les capacités cognitives, les émotions des espèces qu'on exploite pour la nourriture. Et voilà, et petit à petit, ça a fait son chemin. Il n'y a pas eu un événement particulier, il n'y a pas eu une image, il n'y a pas eu une vidéo de L214. Voilà, ça n'a pas été ça le déclic, mais ce sont plein de petites choses qui se sont accumulées progressivement et qui m'ont fait me dire, voilà, j'ai plus envie de participer à ça et j'ai envie d'être en cohérence avec ce que je pense, à savoir que c'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui dans les élevages intensifs, c'est pas normal ce qui se passe dans les abattoirs, et si je peux m'en passer, faut que j'essaye de m'en passer, quoi. Et c'est pas du tout, c'est vraiment un cheminement personnel, et c'est pour ça que le premier bouquin que j'ai écrit, qui s'appelle « Comment j'ai arrêté de manger les animaux », je l'ai vraiment mis à la première personne, et j'ai pas voulu faire un livre qui se serait appelé « Pourquoi vous devez arrêter de manger les animaux ?» parce que j'ai pas du tout l'impression d'être légitime pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Déjà parce que pendant la grande majorité de ma vie, j'ai mangé de la viande et du poisson en grande quantité sans me poser de questions. Donc ça serait quand même malvenu, 5 ans après mon végétarisme, d'expliquer aux gens ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. En plus, je pense que ça relève vraiment de la prise de conscience personnelle et du cheminement personnel. Et chacun doit adapter ses choix à ce qu'il estime être juste. Et je pense qu'on peut agir pour la cause animale sans forcément être végétarien ou vegan. On peut réduire sa consommation, on peut changer sa consommation sans supprimer totalement la consommation de produits animaux. Et c'est pas pour autant que c'est pas bien ou c'est insuffisant. Je pense qu'il y a différentes manières d'agir et qu'il faut encourager toutes les actions qui vont dans le bon sens, que ce soit une simple réduction, que ce soit un arrêt total de la consommation de produits animaux. Voilà, je pense que chacun doit être encouragé et il faut éviter de faire la course à la pureté, on va dire, c'est-à-dire qui est le plus pur, qui est le meilleur défenseur des animaux, parce que sinon on se coupe d'une grande partie des gens, alors que une grande partie des gens se soucient du bien-être des animaux. Et d'ailleurs, c'est une question fondamentale pour moi. C'est pour réduire l'exploitation animale, pour réduire les souffrances des animaux, il faut d'abord répondre à la question qui est pourquoi on continue à exploiter les animaux, à les faire souffrir, alors qu'on est contre le fait de faire souffrir des animaux. Mmh. Et c'est ça vraiment la question centrale. La grande majorité des gens aujourd'hui, en tout cas en France, sont opposés à la souffrance animale, ne sont pas d'accord avec le fait qu'on fasse souffrir des animaux. Et d'ailleurs, quand ils sont témoins d'un acte de maltraitance sous leurs yeux, sur un chien ou même sur un animal d'un autre type, la plupart des gens vont réagir, vont être scandalisés, vont s'opposer à ce qu'ils voient. Et pourtant, on continue collectivement, à travers nos choix de consommation, d'encourager un système, à savoir l'élevage intensif, qui, par nature, fait souffrir les animaux puisqu'il place ces animaux dans des conditions qui sont incompatibles avec les besoins biologiques primaires de leur espèce. Quand on met des dizaines de milliers de poulets dans un hangar, quand on met des centaines de cochons dans des enclos minuscules, ces animaux ne peuvent pas être heureux. Ces animaux sont maltraités de manière systémique. Ça ne veut pas dire que les éleveurs sont des gens qui maltraitent les animaux. Ça ne veut pas dire que Michel, l'éleveur qui s'occupe de ses cochons, est un salaud, est quelqu'un qui maltraite les animaux. Même si Michel, l'éleveur de cochons, est quelqu'un de bien, est un homme bon, qui s'occupe du mieux qu'il peut de ses animaux, le système dans lequel il se trouve fait que la maltraitance est inévitable parce qu'on pousse les éleveurs à produire toujours plus de viande pour toujours moins cher et ça implique que les animaux ne sont pas du tout considérés pour ce qu'ils sont, à savoir des êtres sensibles. Donc pour répondre au problème de l'exploitation animale, au paradoxe de l'exploitation animale, c'est-à-dire qu'on aime les animaux mais on continue à les faire souffrir, il faut répondre à la question pourquoi ? Pourquoi on continue à les exploiter aujourd'hui, à participer à un système qui les exploite alors qu'on est contre cette exploitation et cette souffrance ? Moi, j'ai décidé de devenir végétarien parce que personnellement, je me sens en cohérence avec ce que je pense et du coup, j'ai plus cette dissonance cognitive, c'est-à-dire cette contradiction entre ce que je pense et ce que je fais. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir que tout le monde devienne végétarien ou vegan. Il faut accepter que les gens puissent faire un choix, que les choix alimentaires relèvent de la liberté individuelle. Déjà d'un point de vue utilitaire, c'est-à-dire que les études ont montré que si on a un discours injonctif envers les gens qui consomment des produits animaux. En gros, si on leur dit « il faut arrêter de manger de la viande, sinon vous êtes des salauds », voilà. Il faut arrêter de manger de la viande parce que c'est dégueulasse et on ne peut pas du tout continuer. Souvent, on a l'effet inverse de celui qu'on recherche. C'est-à-dire que les gens, c'est ce que les économistes appellent l'effet de réactance. Et je vous conseille un super bouquin sur le sujet de Romain Espinoza, qui est chercheur en économie au CNRS et qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment sauver les animaux » et qui revient sur tout la science comportementale et tout ce qu'elle peut nous apporter sur cette question-là. Le phénomène de réactance, c'est une personne qui va réagir à l'inverse de ce qu'on recherche parce qu'elle va avoir l'impression d'être privée de liberté. À partir du moment où quelqu'un, un homme ou une femme, va avoir le sentiment qu'on essaye de lui enlever un peu de liberté, à savoir qu'on veut l'empêcher de manger de la viande ou de manger du poisson, le réflexe, ça va être de renforcer la défense de cette liberté. Et même si c'est des gens qui sont sensibles à la question animale, le fait qu'on essaye de leur soustraire un choix, de réduire finalement le choix qu'ils ont, on va aller dans l'autre sens de ce qu'on recherchait, c'est-à-dire que les gens vont défendre ce choix, défendre la consommation de viande, alors même qu'ils seraient certainement ouverts à une réduction de la consommation de viande si on avait un discours qui était moins injonctif. Donc c'est pour ça que moi, je fais très attention à jamais tomber dans le discours prescriptif, voilà, dans le discours « faites ci, faites ça » parce que ça ne marche pas et je ne suis pas légitime pour tenir ce discours-là parce que je n'ai pas été végétarien ou végane toute ma vie. Voilà.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je vais te partager deux moments de vie pour moi. Le premier, c'est quand j'étais en Martinique chez mon grand-père qu'il a égorgé un mouton devant moi. Je devais avoir 8-9 ans. Et en fait, je pense que j'ai pu manger de mouton pendant, je sais pas, 20 ans. tu vois, le truc, c'est que après, on était censé manger le mouton, tu vois, concrètement, genre le midi même. Et c'était impossible, enfin, tu vois, pour moi. Et le deuxième, c'est, malgré tout, je suis omnivore. Hein, je mange encore de la viande. Je me souviens plus, j'essayais de me souvenir j'essayais de me souvenir la dernière fois que j'ai mangé de la viande rouge. Et j'arrive pas à m'en souvenir, donc c'est pas très très courant, mais néanmoins, j'en mange encore. Et le deuxième élément de vie, c'est quand j'étais adolescent, donc sans doute dans les années 90, au début des années 90, et j'avais un oncle qui était justement ce que tu décris, c'est-à-dire un végétarien extrêmement militant, et qui, étant invité à manger chez mes parents, venait et leur expliquait la vie en disant « mais vous vous rendez pas compte, vous êtes des salauds, etc. etc. » Et en fait, effectivement, tu as raison, ça marche pas du tout. La question que je me pose, et je vais pousser le curseur de manière volontaire, c'est que si, admettons, tout le monde devient végétarien, ce qui n'est pas envisageable, évidemment. Mais enfin, envisageable, c'est-à-dire, je ne vois pas ça venir à
non,
très court
clairement.
Terme. En fait, ça impliquerait, et je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus, de voir disparaître une grande partie de ces animaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, et je pense que tu le sais beaucoup mieux que tout le monde, que l'humain, malheureusement, quand il n'utilise pas un animal, en général, en particulier les plus gros, il les supprime de l'existence de la planète, en fait. Donc, quelque part, je me pose la question, est-ce que, en termes d'existence des animaux, le végétarisme poussé à l'extrême, évidemment, je pousse le truc à l'extrême exprès, hein, je pousse le curseur volontairement, mais néanmoins, ça m'intéresse. Est-ce que ça impliquerait pas devoir réduire le nombre de ces animaux de manière drastique?
Bien sûr. Mais ça serait une bonne chose parce que les animaux qu'on consomme aujourd'hui, les poulets de chair, les cochons, les lapins, etc., ce sont des animaux qu'on a sélectionnés pour cet objectif-là de consommation. Par exemple, les poulets de chair en France qui représentent l'écrasante majorité des animaux qu'on mange. Parce que quand on pense à l'élevage, on pense souvent aux vaches dans les prés, etc. Il faut savoir que les vaches en France représentent bien moins de 5% des animaux qu'on mange. Donc, on a une vision totalement déformée en fait, de la réalité. Tout simplement parce que les animaux majoritaires qu'on consomme, on ne les voit jamais. Ce sont les cochons, ce sont les poulets, surtout les poulets, en très grande majorité, et donc en nombre d'individus. Et donc les poulets de chair qu'on mange aujourd'hui sont des poulets qui sont abattus environ autour du 40e jour, donc qui vivent même pas 2 mois, alors qu'une poule de race rustique peut vivre une dizaine d'années. Comme on les abat au 40e jour, il faut qu'ils grossissent très vite. Il faut qu'ils aient une croissance très importante pour des questions de rentabilité. Et donc, on a sélectionné ces animaux pour qu'ils grossissent beaucoup plus rapidement que ce qu'un poulet ou une poule fait de manière naturelle. Et donc, les races qui sont aujourd'hui dans les élevages intensifs sont des races qui n'existent pas dans la nature. Et je vais même aller plus loin, qui sont incapables de survivre dans la nature. Parce que ils grossissent tellement vite que leurs pattes ne sont pas capables de supporter le poids de leur corps. Donc, il y a énormément de malformations au niveau des pattes dans ces élevages-là. Ce sont des animaux qui sont incapables de se reproduire seuls, qui sont incapables de se nourrir seuls. Donc oui, si on met fin à l'élevage intensif, ces races d'animaux-là qu'on a sélectionnées exclusivement pour les consommer sont probablement des races qui vont disparaître. Mais ce sont des races d'animaux qui sont condamnées à la souffrance. Qu'on a fabriqué, qu'on a transformé pour correspondre à nos besoins de consommation au détriment de leur santé mentale et physique. Ce sont des animaux qui ne connaissent que la souffrance. Donc que ces races d'animaux qu'on a fabriquées, nos monstres de Frankenstein, disparaissent si un jour l'élevage intensif disparaît, c'est une bonne chose. Il faut bien comprendre que une espèce ou une race en tant que telle, elle n'a pas d'intérêt propre. C'est pas un individu. Une espèce, elle souffre pas. Une espèce, elle a pas besoin de se nourrir. Une espèce, c'est pas un individu qui ressent la douleur, qui a des émotions, etc. Donc, le fait qu'une espèce qu'on a fabriquée pour nos besoins n'existe plus ne pose pas de problème. En tout cas, moi et pour de nombreux scientifiques que j'ai lus, ça pose pas de problème particulier. Ça serait même une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les êtres humains, nous, on a remplacé les animaux sauvages par notre bétail. Totalement. On a éliminé des dizaines, des centaines, des milliers d'espèces en détruisant les habitats. Le meilleur exemple, c'est l'Amazonie. Hein. On rase la forêt, un milieu extrêmement riche en biodiversité, pour mettre des vaches. À quoi on arrive aujourd'hui? Si tu prends la biomasse totale des mammifères sur la planète, donc le poids de tous les mammifères sur la planète, 95% de ce poids, de cette biomasse, c'est les êtres humains et nos animaux domestiques. Et donc, il reste moins de 5% de mammifères sauvages en biomasse. Donc, on a fait le vide autour de nous pour remplacer les espèces sauvages par des espèces domestiques pour la consommation. Et donc, il y a urgence, justement, à réduire le poids de ces espèces domestiques. Il y a urgence, pourquoi ? Parce que ces espèces domestiques, à travers l'élevage intensif, elles détruisent la biodiversité. Et elles posent un énorme problème climatique. Elles détruisent la biodiversité parce que pour les nourrir, il faut détruire des espaces naturels pour produire de l'alimentation pour ces animaux. Et beaucoup d'eau. Elles posent problème aussi parce que toutes les déjections produites par ces milliards d'animaux d'élevage ont un énorme impact sur les milieux naturels. On a très souvent des exemples en Bretagne avec des faux salisiers d'élevage porcin qui, par accident, se brisent et se déversent dans les rivières. Et ben sur des kilomètres et des kilomètres, toute la vie de la rivière, la vie naturelle, est détruite par l'impact de ces déjections. Donc, l'élevage intensif pose un problème en termes de biodiversité énorme et pose un problème évidemment climatique, puisque c'est plus un mystère aujourd'hui. On sait que l'élevage au niveau planétaire représente un peu plus de 14% du total des émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut globalement aux émissions du secteur des transports. Donc, c'est un énorme pollueur, le secteur de l'élevage. Donc oui, pour répondre à ta question, si on met fin à l'élevage intensif, il y aura beaucoup moins d'animaux domestiques. On a des exemples assez symptomatiques souvent dans l'actualité. Par exemple, les incendies dans les élevages. Il y a des incendies accidentels hein, la plupart du temps dans les élevages où on peut lire dans la presse 10 000 poules ont péri dans l'incendie de l'élevage. C'est présenté comme quelque chose de dramatique, de triste, et c'est vrai que ça l'est, sauf que ces 10 000 poules, si elles n'étaient pas mortes dans l'incendie de l'élevage, elles seraient mortes à l'abattoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est des poulets qui, de toute manière, sont destinés à mourir au bout de leur 40e jour. Donc, qu'ils meurent dans un incendie ou qu'ils meurent dans un abattoir, même si peut-être la mort dans l'abattoir est un peu moins douloureuse, évidemment, que de mourir brûlé, c'est sûr. Mais la finalité est la même. le discours de dire il faut continuer l'élevage intensif, il faut continuer l'élevage parce que sinon des animaux vont disparaître, parce que du coup plus personne ne les élèvera, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est pas un problème quoi. Mmh. Voilà. Et c'est même une urgence de réduire l'impact de nos animaux d'élevage et leur nombre pour réduire la pression sur les écosystèmes et laisser plus de place aux espèces sauvages. J'aimerais revenir sur l'exemple de ton mouton, parce que c'est vachement intéressant ce que tu dis. Tu dis, voilà, j'ai vu mon oncle, c'est ça, si je me trompe pas, j'ai vu mon grand-père égorger un mouton devant moi et ça m'a traumatisé. Pendant 20 ans, j'ai plus voulu manger de mouton. En fait, pourquoi tu n'as plus voulu manger de mouton ? Parce que tu as assisté à cette scène-là et que ça a activé ton empathie émotionnelle. Il y a deux types d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire on réagit à ce qu'on est confronté directement, ce qu'on voit. Et puis, il y a l'empathie cognitive, c'est la capacité à se mettre à la place et à ressentir les souffrances d'être vivant qu'on ne voit pas. Qui est une empathie beaucoup plus difficile à activer. Parce qu'évidemment, l'empathie émotionnelle, quand tu vois un mouton se faire égorger devant toi, bah, tu vois le mouton hurler, tu vois le sang, voilà, ça déclenche cette empathie-là. Et la réaction, c'est « Oula, moi, je veux plus manger de mouton. » Et en fait, la force de l'élevage intensif et du système d'abattage industriel, c'est qu'ils ont réussi à cacher cette souffrance-là des yeux du grand public. C'est-à-dire que les gens, quand on voit des animaux, c'est généralement des animaux qui vont bien. Ce sont des chiens, des chats qui sont bien traités parce que leur maître s'occupe bien d'eux. Ce sont des vaches dans les prés qui font partie des animaux d'élevage les mieux traités du monde puisqu'elles ont accès au plein air, ce qui est très très rare dans l'élevage aujourd'hui. La grande majorité des animaux n'ont pas accès au plein air. Et donc, on se dit, voilà, moi, les animaux que je vois, ils sont plutôt bien traités. Et c'est vrai. Sauf que l'écrasante majorité des animaux qui, eux, sont maltraités, on ne les voit jamais. Et donc, cette empathie émotionnelle que toi, tu as eue pour ce mouton qui s'est fait égorger, les gens ne l'ont pas pour les cochons, ne l'ont pas pour les poulets. Il y a peut-être encore des petits-enfants qui voient leur mamie dans l'arrière-cour décapiter la poule pour faire le repas du midi. Ça existe certainement. Mais je pense que c'est vraiment des exceptions aujourd'hui et que la grande majorité des consommateurs n'assistent jamais à la mise à mort d'un animal devant leurs yeux. Parce que si c'était le cas, et c'est Paul McCartney qui dit ça, si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. C'est ce qu'il dit. Et non, c'est très vrai. C'est très vrai. Si on assistait quotidiennement à la mise à mort des animaux qu'on doit consommer, si quand tu allais au restaurant et que tu commandais du rôti de porc, on amenait le cochon devant toi, on te donnait le couteau et puis on te disait « Allez-y, monsieur, tuez votre rôti », tu peux être sûr que la consommation de viande chuterait drastiquement et qu'il resterait plus grand monde qui voudrait commander du rôti de porc au restaurant. Et donc, en fait, le fait que les animaux qu'on consomme soient loin de nos yeux, que leur mise à mort et leurs conditions de vie, leurs souffrances soient loin de nous, ça nous empêche d'activer cette empathie émotionnelle que toi, tu as activée pour le mouton. Et donc, pour réfléchir à ce qu'on doit faire pour eux, on doit activer l'empathie cognitive. C'est-à-dire se mettre à la place de quelque chose qu'on ne voit pas. Se mettre à la place d'un cochon dans un élevage intensif alors qu'on ne voit pas ce cochon dans l'élevage intensif. Et c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que les vidéos des associations L214 et les autres qui font des enquêtes dans les abattoirs sont pour moi fondamentales. C'est qu'elles permettent aux consommateurs d'activer cette empathie émotionnelle en voyant ces images-là. Et donc ensuite d'activer plus facilement l'empathie cognitive dans tous les moments de leur vie où elles verront pas les images, mais elles s'en rappelleront. Et donc, au moment de consommer, elles pourront activer cette empathie cognitive pour se mettre à la place de ces cochons parce qu'elles auront vu dans une vidéo à quoi ressemble la vie de ces cochons. Et voilà, donc l'exemple de ton mouton, il est très parlant parce que la société a volontairement mis à l'écart la mise à mort des animaux. À la base, c'était pour protéger les êtres humains parce que on pensait que assister à de la violence sur des animaux pouvait encourager la violence entre êtres humains. Ça a été la raison à l'origine qui a fait que les autorités ont mis des lieux de mise à mort d'animaux en dehors des grandes villes de manière un peu cachée, etc., pour que les êtres humains n'assistent plus à ce spectacle de violence en espérant ainsi réduire la violence dans la société humaine. C'est pour ça qu'on a mis la mise à mort des animaux à l'écart. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet cette mise à l'écart de la mise à mort, ce camouflage de la mise à mort et de la souffrance des animaux d'élevage, c'est ce qui permet de perpétuer de manière massive la consommation de viande. Et c'est là, tout l'enjeu, en fait, de cette question pour moi, et c'est pour ça que je pense que les journalistes ont un gros rôle à jouer, c'est l'information des consommateurs. C'est de révéler ce que beaucoup de gens veulent garder caché. Pour revenir sur les animaux qui disparaîtraient si on arrête l'élevage intensif, enfin, si on devient tous végétariens, il y a des races rustiques d'animaux, notamment des vaches de montagne, des porcs rustiques, etc., qui peuvent très bien vivre aux côtés des êtres humains, hein. Et on le voit, hein, les cochons en Corse qui vivent en liberté dans le maquis, enfin dans des grands enclos dans le maquis, ils pourraient très bien continuer à vivre en liberté même s'il n'y avait pas un système derrière qui commercialiserait leur leur viande. C'est un logiciel qu'il faut changer. Il faut accepter de vivre à côté d'animaux qui ne nous apportent rien économiquement. Et il y a beaucoup de populations dans le monde qui le font. Hein. Les tribus amazoniennes qui vivent et qui chassent, hein, parce qu'elles en ont besoin pour se nourrir, elles vivent vraiment en harmonie avec les autres espèces animales qui sont autour d'eux. Et ils savent très bien qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de pression sur les espèces au risque de les faire disparaître et donc au risque de faire disparaître une ressource alimentaire. Donc, je veux dire, il y a encore des peuples humains sur la planète qui sont capables de cohabiter avec d'autres espèces animales sans absolument vouloir une exploitation économique.
Ouais. On reviendra sur le sujet de la pêche et ton histoire aussi avec ton père, parce que évidemment ça m'intéresse. On voit aujourd'hui en France, sans doute en Europe, une réduction de la consommation de viande. Moi, je crois, mais peut-être que je me trompe, tu sais ça mieux que moi, que l'argument qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans la réduction de la consommation de viande, c'est avant tout, et c'est peut-être triste, mais c'est comme ça, c'est pas tant la santé des animaux que la santé de son propre corps humain. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit la consommation de viande pour sa propre santé. Est-ce que cet argument-là, il n'est pas plus fort que celui de l'écologie ou de la violence faite aux animaux ?
Bah, je pense pas forcément, je pense que tout ça est très complémentaire. Moi, j'utilise pas trop l'argument de la santé humaine.
D'accord.
Déjà parce qu'il y a, alors, ce qui est sûr, voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on peut être végétarien et être en très bonne santé. On peut être végane et être en très bonne santé, dans la limite que le régime doit être équilibré, évidemment. C'est-à-dire que si on est végétarien et qu'on mange que des pâtes, on ne va pas être en bonne santé. Voilà. mais en tout cas, les études ont montré que les populations végétariennes et véganes ne sont pas en moins bonne santé que la population générale, et sur certains aspects, notamment certains cancers, le diabète, l'obésité, sont même en meilleure santé sur ces aspects-là. En revanche, il y a encore des débats de savoir quel est le meilleur régime, est-ce que c'est sans viande du tout, est-ce que c'est sans poisson du tout. Voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est possible d'être végétarien et vegan en bonne santé, mais je n'ai pas envie d'utiliser cet argument parce qu'on peut aussi être en bonne santé en mangeant un peu de viande et un peu de poisson. Voilà, c'est la réalité. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Ce n'est pas du tout incompatible. Donc, j'essaie de ne pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est souvent un argument qui est utilisé contre les végétariens et les véganes pour dire, regardez, vous allez être en mauvaise santé si vous arrêtez la viande, etc. Ça, il n'y a rien de plus faux. Ça a été montré, donc il faut en répondre sur ces questions-là. Mais je ne pense pas qu'il faut tomber dans le jeu inverse en disant, pour être en bonne santé, il faut arrêter la viande, il faut arrêter le poisson. Voilà, moi je pense pas ce soit, en tout cas c'est pas établi de manière certaine scientifiquement qu'il faut absolument arrêter totalement la viande et le poisson pour être en meilleure santé. Voilà, ça peut aider sur certains aspects, mais c'est pas indispensable non plus.
Mais justement, ça peut permettre de réduire complètement la consommation et justement de...
Non mais alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réduire la consommation. Ça... Ça fait pas débat, toutes les agences de santé publique le disent, toutes les études menées sur la question le disent, il faut réduire la consommation, particulièrement la consommation de viande rouge et de viande transformée, parce que une surconsommation de viande, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays occidentaux, pour le coup, de manière certaine, nuit à la santé publique, ça c'est sûr. Donc ça, oui, ça il faut le dire, mais ça j'ai envie de dire, c'est connu, enfin, l'OMS a classé la viande rouge comme potentiellement cancérigène. Voilà, les institutions internationales, les agences de santé font déjà des recommandations qui incitent les gens à réduire la consommation de viande pour leur santé. Ça, c'est certain. Mais pour moi, le fait de devenir végétarien ou vegan ne doit pas être basé là-dessus. En tout cas, moi, c'est pas comme ça personnellement que je le vois, et c'est pas du tout pour ça que je suis devenu végétarien. Mmh. C'est pas pour être en meilleure santé. C'est plutôt des considérations éthiques, une question de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Donc, des autres êtres humains aussi, hein, parce l'élevage, particulièrement l'élevage intensif aujourd'hui, a énormément d'externalités négatives sur le climat, provoque énormément de problèmes environnementaux, et donc cause des problèmes aussi à la santé d'êtres humains qui sont victimes de pollution, qui sont victimes du changement climatique, etc. Donc, c'est une question de responsabilité vis-à-vis des autres êtres humains, vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis aussi, et j'ai même envie de dire surtout, des animaux qu'on exploite, de ces êtres vivants qu'on fait souffrir, qu'on condamne à des existences horribles pour des besoins de consommation. Voilà, moi je pense que c'est ça pour moi le point central. Après, effectivement, qu'il y ait des avantages nutritionnels à réduire la consommation de viande, voire à l'arrêter totalement, pourquoi pas, mais je pense pas que ça sera, je pense pas que ça soit le point central. Enfin, en tout cas, ça l'est pas pour moi.
Non, pas pour toi, mais moi, en fait, quand je regarde la problématique, je me dis, l'objectif, c'est de réduire de manière drastique. Moi, mon angle, il est peut-être étrangement, mais plus autour du climat. Du coup, je me dis, l'objectif, c'est de réduire de manière drastique la consommation de viande, parce que effectivement, moi, j'ai été élevé, peut-être toi aussi, dans une culture où globalement, on avait de la viande à tous les repas. Nécessairement, tu vois, c'est en dehors du fait que c'est pas très sain pour ta santé, ça a des impacts, parce que c'est ce qui génère aussi derrière l'industrialisation de la viande, parce que d'un côté, tu vois, tu parlais du fait qu'on cache aujourd'hui et je pense que les gens ne... En fait, c'est assez étrange. Je crois que les gens n'ont pas... Enfin, ils savent, quelque part, je pense que n'importe qui sait qu'un abattoir, c'est un truc immonde. Et en même temps, ils n'ont pas trop envie de savoir. Enfin, il y a ce côté un peu schizophrène, je crois, de l'être humain là-dessus.
Mais c'est un processus psychologique normal pour se protéger, parce que effectivement, comme tu le dis, on nous a toujours dit qu'il fallait manger de la viande pour être en bonne santé. On nous a habitués à manger de la viande, et donc le fait de ne plus en manger, ça provoque une perte. Et on a tous, en tant qu'être humain, une aversion aux pertes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre quelque chose qu'on a. Donc ce qu'on a, c'est la consommation de viande, c'est dans nos habitudes, c'est dans notre vie normale. Et donc se priver de cette consommation, ça nous fait perdre quelque chose. Et c'est ce qui peut freiner la transition alimentaire vers un modèle plus végétal, c'est qu'on ne veut pas perdre quelque chose. Mais ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour tout. On ne veut pas perdre ce qu'on a. On ne veut pas avoir moins de choix que ce qu'on avait à la base.
Et
c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de gens de se priver de viande. Que beaucoup de gens ont l'impression que c'est difficile de se priver de viande parce qu'ils ne veulent pas perdre quelque chose. Par contre, une fois qu'ils s'en sont privés, une fois qu'ils sont devenus végétariens, ils n'ont plus aucune difficulté à ne pas en remanger. Parce que en remanger de la viande, ça serait se priver de tous les avantages qu'on a eu à ne plus consommer de viande, c'est-à-dire d'être en cohérence avec ce qu'on pense, de savoir que notre alimentation ne fait plus souffrir des animaux, de savoir que notre alimentation a moins d'impact sur l'environnement. Et ben, on perdrait tout ça à remanger de la viande. Et du coup, l'aversion aux pertes est inversée. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire qu'on
ne veut plus perdre les avantages qu'on a eu à arrêter. Mais en tout cas, avant d'arrêter...
Tu peux faire des économies, t'es en meilleure santé. Il y a énormément d'arguments, en fait. Hein.
Voilà. Mais par contre, avant d'arrêter, quand tu manges de la viande tous les jours, toutes les semaines, t'as l'impression que si t'arrêtes, tu vas perdre ce choix-là. Et donc, que tu vas avoir moins de liberté. Voilà. Moins de liberté, moins de facilité, etc. Il y a tout un travail culturel à faire d'information. La clé de tout pour moi, c'est l'information. C'est informer les gens sur la réalité de l'élevage aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que l'élevage, c'est l'élevage dans les prés. C'est pas ça l'élevage. Les chiffres, c'est pas ça. 83% des poulets de chair sont dans des élevages ultra intensifs. 95% des cochons sont dans des élevages ultra intensifs. Quasiment 100% des lapins qu'on consomme sont élevés en cage. Les poules pondeuses, il y en a encore plus de la moitié qui sont élevées en cage. Donc, la réalité de l'élevage aujourd'hui en France, ce sont des animaux qui ne sortent jamais et qui sont enfermés dans des bâtiments toute leur vie. Des bâtiments où il y a une énorme promiscuité, une souffrance incommensurable. Donc déjà, c'est informer sur la réalité de l'élevage. Ensuite, c'est informer sur l'impact de l'élevage sur l'environnement. les externalités négatives sur le climat, sur la biodiversité. Ensuite, c'est informer sur la réalité nutritionnelle, c'est-à-dire démonter tous les mensonges qui sont diffusés, y compris par certains services de l'État, sur le fait qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé. On a encore entendu le ministre de l'Agriculture dire ça récemment, qu'il fallait manger de la viande pour la croissance des enfants, ce que la science contredit totalement. On n'a pas besoin de manger de la viande pour être en bonne santé. Ça, c'est totalement faux. Si on a un régime équilibré, on peut se priver de viande, on peut se priver de poisson sans aucun problème. Donc, informer sur cette question-là. Informer aussi sur la réalité économique. C'est-à-dire que l'élevage intensif, c'est un système qui ne profite à personne. Il ne profite évidemment pas aux animaux, il ne profite évidemment pas aux consommateurs, puisque ça fait de la viande de mauvaise qualité qui n'est pas bonne d'un point de vue nutritionnel, qui peut même être dangereuse par certains moments, et il ne profite pas non plus aux éleveurs. Parce que les éleveurs, ils sont surendettés, parce qu'ils ont des coûts toujours... On les pousse à produire des animaux pour toujours moins cher, avec des marges toujours plus faibles. Ceux qui se gavent dans ce système-là, ce ne sont pas les éleveurs. Les éleveurs, ils sont victimes du système de l'élevage intensif. Ils ont un taux de suicide record, ils sont sous l'eau, on les a poussés dans un modèle productiviste dont ils n'arrivent pas à sortir. Donc ça génère du malheur aussi pour les éleveurs. Ça ne profite à personne, ça profite à l'industrie de l'agro-business, ça profite aux grandes entreprises de la distribution qui font des marges sur ces produits-là, ça profite à quelques personnes, à un tout petit pourcentage de la population, et ça nuit à l'écrasante majorité de la société et aux animaux et à l'environnement. Donc, informer sur ces questions-là, c'est essentiel parce que sinon, on parle avec, on débat avec des informations erronées qui sont diffusées par certains lobbies et qui infusent dans l'esprit de la population.
En fait, il y a deux éléments sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est un élément que tu n'as pas mentionné, mais qui pour moi, enfin après, moi, c'est sans doute mon prisme, j'ai tendance à réfléchir aux imaginaires. Et c'est vrai qu'il y a un imaginaire autour de la viande, en particulier, tu vois, je pense au barbecue. Tu vois, on arrive dans les beaux jours bientôt, on n'y est pas encore, mais on y arrive. Et le barbecue, tu sais, il y a un côté joyeux. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a un côté, c'est sympa de faire un barbecue. Et du coup, si on enlève ça, on enlève de la joie, tu vois, justement. Y a aussi ces imaginaires qu'il faut faire évoluer, parce que sur un barbecue, tu peux très bien faire cuire des légumes et c'est extrêmement bon. Mais c'est des imaginaires qu'il faut faire évoluer, donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est je crois, et je sais que t'en parles beaucoup, moi je suis très attentif en particulier aux cochons, parce qu'en fait les cochons, c'est un animal qui est extrêmement intelligent, et pourtant on a cette tendance à vouloir en dehors du fait que de dire, tu vois, l'expression sale comme un cochon, etc. Mais c'est surtout, alors qu'un cochon en l'occurrence est extrêmement propre, mais on pourra y revenir. Mais c'est surtout de se dire en fait c'est des animaux qui ont, enfin voilà, c'est pas grave entre guillemets, avec des énormes guillemets, hein. Mais tu vois, il y a quand même ce truc de c'est comme ça, c'est le système, moi je peux rien y faire, et effectivement moi j'aime bien le goût de la viande, donc je vais continuer à en manger. Je sais pas si ça te résonne chez toi.
Alors déjà j'ai envie de te dire un barbecue avec de la viande, c'est clair que c'est super. Moi, j'adorais ça, quoi. Ça sent bon. Des saucisses dans du pain avec du ketchup, c'est simple, c'est bon. Avec de la moutarde, c'est simple, c'est bon. Enfin voilà, c'est convivial, c'est avec les potes. Mais les gens ne sont pas obligés de s'en priver. Si deux, trois fois pendant l'été, on se fait un bon barbecue avec ses potes avec de la viande, c'est pas grave. Si le reste de l'année, on réduit drastiquement sa consommation. En fait, c'est vraiment ça mon message. C'est pas de dire arrêtez les barbecues. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient pas envie d'arrêter les barbecues avec de la viande. Quoique, on peut faire des super barbecues végétariens, voire vegan. Hein, aujourd'hui, franchement, moi, je me fais des barbecues l'été super bons avec des légumes grillés, avec du fromage.
Dans le citron.
Parce que je suis pas vegan, mais il y a du fromage, il y a des produits vegan que tu peux faire griller au barbecue. Il y a des simili carnés qui sont faits de manière artisanale et pas ultra transformés que tu peux faire au barbecue et c'est super bon. Donc, on peut se faire un barbecue végétarien ou vegan, super bon, sans aucun problème. Et on peut participer à des barbecues où il y a de la viande en se faisant griller ses propres trucs et ne pas être exclu de ce moment de sociabilité sans aucun problème. Je vous rassure, mes étés, je m'éclate et je fais des barbecues avec mes copains, il n'y a pas de problème. Mais si les gens veulent continuer à se faire des barbecues avec des saucisses, et c'est leur droit, et je peux le comprendre, ils peuvent, tant que le reste du temps, on essaie de réduire la consommation. L'important, c'est de réduire la consommation. Voilà, ce qui est certain, en fait, on n'a pas le choix, c'est qu'il faut qu'on réduise massivement la consommation de viande. Mmh. Donc, si on mange de la viande une fois par semaine, deux fois par mois, et que l'été, on se fait un petit barbecue de temps en temps, mais très bien, je veux dire, c'est déjà super. Et si tout le monde faisait ça, ça réglerait déjà une partie du problème de l'exploitation animale et ça réglerait une partie du problème de la catastrophe climatique. Du problème sanitaire, de la surconsommation de protéines animales. Donc, moi, mon message, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus, sur l'importance de réduire de manière urgente et de manière très importante la consommation de produits animaux, que ce soit la viande, le fromage ou le poisson. On n'est pas obligé de se mettre l'épée de Damoclès, de dire il faut absolument tout arrêter, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas y arriver, qui vont pas en avoir envie, et c'est dommage d'exclure ces gens-là de ce combat que tout le monde doit mener. Donc si vous avez envie de vous faire un barbecue l'été, faites-vous un barbecue l'été. L'important, c'est sur l'année d'arriver à réduire sa consommation de viande de manière importante et d'avoir un vrai impact sur l'exploitation animale et sur le climat.
Et sur l'intelligence des animaux, en particulier des cochons. Moi, j'aime bien l'exemple des cochons parce que je trouve que c'est... je le trouve hyper emblématique, le cochon, parce que c'est un animal qui est extrêmement intelligent, qui est très propre. Alors, j'explique quand même pourquoi. C'est que c'est un animal qui, en l'occurrence, fait ses déjections et ne dort pas dedans. Donc, c'est quand même assez rare. Les chiens font ça aussi, ou les chats, tous les animaux ne le font pas. Donc, c'est un animal qui est... Alors, effectivement, qui se met de la terre, parce que sinon, il brûlerait au soleil. Mais c'est pas un animal sale, le cochon. Et c'est surtout un animal extrêmement intelligent. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, en fait, tous les animaux sont intelligents. Je pense que ça, voilà, la science aujourd'hui apporte de plus en plus d'informations sur ces questions-là. Il n'y a plus de doute sur le fait que il y a une forme d'intelligence chez tous les animaux. Toi, tu parles des cochons, mais je pense qu'on peut globalement parler des mammifères, qui sont les animaux les plus proches de nous, puisque nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux, d'ailleurs. On a tendance à l'oublier, mais l'être humain est un animal, est un primate de l'espèce Homo sapiens. Donc, voilà, nous sommes des animaux. Et c'est vrai que les animaux qui nous sont le plus proches, ce sont les autres mammifères. Les autres mammifères ont globalement... énormément de similitudes avec nous, que ce soit sur les émotions, sur le type d'émotions qu'ils peuvent ressentir, la joie, le bonheur, le deuil, la tristesse. Tout ça a été démontré chez la plupart des mammifères, notamment chez le cochon. Le cochon, il a aussi ce qu'on appelle une intelligence machiavélique, c'est-à-dire qu'il est capable, et ça, des travaux super intéressants qui ont montré ça sur le cochon, il est capable de tromper volontairement ses congénères. Par exemple, si un cochon sait qu'il y a de la nourriture à un endroit, mais sait qu'il est suivi par d'autres cochons, il va faire exprès d'aller à l'endroit où il n'y a pas de nourriture et il va attendre de ne pas être suivi pour aller récupérer la nourriture et du coup tout garder pour lui. Donc les cochons sont capables, et ça ce sont des études d'éthologie qui l'ont montré, sont capables de construire des stratagèmes pour tromper leurs congénères et augmenter leur plaisir personnel, comme nous en fait.
Oui, bien sûr.
Voilà, comme les êtres humains. Et donc sur les mammifères, on est très proche d'eux. Les mammifères ont, et d'ailleurs pas que les mammifères, mais les mammifères, les animaux en général, ont une personnalité. Un cochon ne ressemble pas à un autre cochon. Un poulet n'est pas le même qu'un autre poulet. Chaque animal est une personnalité, est une individualité, un caractère. Voilà. Y a des cochons qui vont être plus énervés que d'autres, des cochons qui vont... voilà, c'est comme nous, quoi. Les animaux ont des caractères et des individualités. Et ça, c'est aussi une des clés pour réduire l'exploitation animale, c'est de voir les animaux comme des individus. Parce que souvent, on a tendance à voir... d'ailleurs, ça se retrouve dans les mots. On dit « j'ai mangé du poulet ». J'ai pas mangé un poulet, j'ai mangé du poulet, j'ai mangé du bœuf, j'ai mangé du cochon.
Et pire que ça, on dit pas « j'ai mangé Albert, j'ai mangé... » Parce qu'on pourrait leur donner des noms, en réalité.
On voit la chair animale comme un espèce de tout. Indifférent, où chaque individu est absolument interchangeable avec un autre, sauf que c'est pas le cas, que le jambon qu'on a dans son assiette est un bout de corps d'un individu qui a vécu avec son caractère, ses émotions, des relations sociales particulières avec tel ou tel autre individu. On mange des individus. Et de voir les choses comme ça, ça aide vachement à prendre du recul et à considérer les animaux pour ce qu'ils sont, à savoir des êtres vivants, des individus qui doivent être respectés et dont, en tout cas, on a la responsabilité de diminuer les souffrances le plus possible. Voilà. Et ça, c'est super important. Et on pourrait parler de l'intelligence animale pendant des heures. Là, j'ai lu un bouquin sur le langage des animaux la semaine dernière, fait par un bioacousticien qui est vraiment passionnant, où on se rend compte que dans toutes les espèces, quasiment, il y a des langages très élaborés. On pense que les êtres humains sont les seuls à avoir un langage, ce qui est pas le cas. Alors on a un langage quand même très particulier, hein, le langage articulé, etc. On est une espèce à part d'un point de vue linguistique, ça c'est sûr. Mais tous les animaux se parlent, tous les animaux communiquent. Et sont y compris capables de communiquer des émotions, de parler aussi pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'on a pendant très longtemps pensé que les animaux étaient uniquement régis par leurs instincts, c'est-à-dire qu'ils agissaient soit pour manger, soit pour se reproduire. Voilà, en gros. Alors qu'on sait que c'est pas le cas aujourd'hui. On sait qu'il y a des animaux qui jouent, il y a des animaux qui font des actions qui n'ont aucun but apparent. Il y a des animaux qui communiquent pour ne rien dire, simplement pour communiquer, pas pour se donner d'informations particulières. L'intelligence animale, on n'est qu'au début des découvertes, parce que pendant très longtemps, et surtout sur les animaux d'élevage, qui n'ont pas été étudiés pendant très longtemps, parce que les recherches se concentraient sur les grands singes, sur les lions, sur les grands animaux sauvages, et il y a peu de gens qui étudiaient l'intelligence, les compétences cognitives, les capacités cognitives des animaux d'élevage. C'est en train de changer, et tant mieux.
Ouais, en fait, je m'étais intéressé un petit peu aux cétacés. Alors bon, c'est pas des animaux d'élevage en l'occurrence, mais où on découvrait qu'ils avaient des niveaux d'émotion, ou en tout cas des niveaux de communication que nous-mêmes n'arrivions pas à atteindre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments, il y a des endroits où en fait ils sont meilleurs que nous en termes de communication. C'est un peu étrange de le voir comme ça, mais c'est simplement que évidemment ils vivent pas dans le même monde que nous, et naturellement ils s'expriment pas de la même manière. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que finalement ils peuvent par endroit, aller plus loin que nous, en tout cas avoir des niveaux différents de nous. Il y avait une question que je voulais te poser, parce que tu disais au tout début que ton père est pêcheur, ou était pêcheur, je ne sais pas s'il a arrêté entre-temps.
Non, il fait toujours de la chasse sous-marine. Ouais.
Et justement, je voulais parler de la chasse. Parce que, tu vois, on entend ce débat infini de la chasse, c'est horrible, vous ne vous rendez pas compte, vous tuez des animaux, etc. etc. Alors qu'en à discuter, moi, je n'ai jamais chassé qui que ce soit, et encore moins, enfin, pas qui que ce soit, et encore moins un animal, mais c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Donc, jamais un animal et qui que ce soit, évidemment. Mais néanmoins, tu vois, il y a pas mal de débat et moi j'ai du mal à me positionner. En fait, quand t'entends des gens parler de chasse, ils sont passionnés, ils te disent mais on participe à l'équilibre de l'écosystème, c'est pas du tout aussi horrible que de l'abattage justement, etc. etc. Moi, avec ton background du coup, je serais très curieux de voir, de comprendre c'est quoi ta position par rapport à la chasse et pas spécifiquement la pêche sous-marine, mais et aussi du coup la pêche sous-marine.
Moi, je suis pas opposé au principe de la chasse en lui-même, c'est-à-dire le fait de tuer pour se nourrir. Je vois difficilement comment on peut être contre. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui où des populations humaines ont besoin de chasser pour survivre, tout simplement, pour avoir accès à de la nourriture. Donc moi, c'est pas le principe de la chasse que je trouve contestable. Selon moi, ça ne l'est pas. C'est pas contestable. Le problème, c'est la chasse de loisir. C'est-à-dire quand la finalité n'est plus de survivre, n'est plus de se nourrir, mais de s'amuser. Et c'est le cas, par exemple, des chasses les plus cruelles.
Bien sûr.
La chasse à courre, par exemple, où évidemment le but de la chasse à courre, c'est pas de se nourrir. Hein. Les gens n'ont pas besoin de se.
A priori,
ce sont pas des gens affamés qui partent chasser pour faire survivre leur famille. Hein. Ce sont des gens qui vont s'amuser en poursuivant un être sensible pendant des heures avec une meute de chiens qui va être stressé, qui va être acculé, qui va être effrayé, qui va être parfois dévoré vivant par les chiens. Et tout ça pour le loisir. Pour la tradition, ils disent, mais pour s'amuser. Les enclos de chasse aussi, par exemple, où des gens vont venir payer à la journée pour tirer sur des animaux enfermés derrière des grillages qui ne peuvent pas s'enfuir, où on va tuer tellement d'animaux qu'on pourra de toute façon pas tout manger, où c'est simplement pour le loisir. Le déterrage de blaireaux. Personne ne mange de blaireaux en France. C'est simplement pour le loisir, pour s'amuser. Soi-disant pour la régulation, même si les scientifiques ont montré depuis très longtemps qu'il n'y a absolument aucune nécessité de réguler le blaireau. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, la chasse de survie, de nécessité, où l'être humain en fait, revient à son animalité et a besoin d'intégrer cette chaîne alimentaire pour se nourrir et pour survivre, on ne peut pas y être opposé. En tout cas, moi, je ne suis pas opposé, ça n'aurait pas de sens. En revanche, la chasse pour s'amuser, où l'objectif n'est pas de survivre, mais de prendre du plaisir à tuer et à faire souffrir un animal, ça, je pense que c'est contestable.
Mais alors, comment tu en discutes avec ton père, alors, du coup? Parce que, je me permets de te poser la question, mais du coup, la conversation avec ton père, elle doit être compliquée, c'est-à-dire que, parce que ton père, j'imagine que...
Non, pareil, la conversation n'est pas compliquée, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus qu'on ne peut pas discuter.
Bien sûr.
Voilà, moi, je suis très ouvert, y compris avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, mon père, lui, il chasse pour son plaisir, c'est son plaisir. Il consomme, évidemment, les poissons qu'il chasse, mais c'est avant tout... C'est avant tout du loisir. Il pourrait très bien ne se passer de cette chasse pour se nourrir, sans problème. Je ne partage pas cette pratique. Je l'ai fait quand j'étais plus petit avec lui, quand j'étais ado.
Oui,
je l'ai chassé avec lui, sans grand succès d'ailleurs. Je n'étais pas un grand chasseur. Heureusement pour les poissons. C'est mon père. Je l'aime avec ses passions et ses pratiques. Et on peut ne pas être d'accord avec tout avec les gens de sa famille.
Parfaitement. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'en fait, on a raté cette interview. On a rigolé. Je sais pas
si t'as...
On avait dit qu'on rigolerait pas.
Désolé.
Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Je veux juste finir sur la chasse parce que j'ai...
Vas-y.
Excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie.
Aujourd'hui, je pense que l'urgence, c'est vraiment de mettre fin aux chasses les plus cruelles, dont on sait qu'elles font souffrir les animaux, qu'elles n'ont pas de visée alimentaire, qu'elles n'ont aucun intérêt en termes de régulation. Celles-là, il faut les arrêter, quoi. Il y a eu une décision de la Cour de justice européenne hier sur la chasse à la glu, c'est super. La chasse à la glu qui l'Union européenne dit qu'il faut arrêter cette chasse-là, qui fait partie des chasses cruelles. Mais c'est ça pour moi le débat aujourd'hui. Après, on pourra débattre de la chasse en tant que telle, de la chasse globalement en France, mais c'est pas le sujet, on n'en est pas là. Le vrai débat, c'est déjà arrêtons les pratiques les plus cruelles. Déjà, arrêtons ça, quoi. Arrêtons les pratiques qui ne servent pas à se nourrir et qui servent simplement à faire souffrir des animaux. Ça n'a plus aucune justification aujourd'hui. Et c'est ça la priorité. Voilà. Donc, je te laisse me reposer la question.
Je te repose la question. ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Moi, je pense qu'il faut claquer la porte aux fausses informations qui continuent à être diffusées sur l'environnement, sur les animaux, sur la biodiversité, sur le climat. Il faut combattre les fausses informations, il faut combattre les lobbies qui diffusent ces fausses informations pour des raisons économiques, parce qu'ils ont un business à défendre. Et il faut remettre la connaissance scientifique, remettre les faits au cœur du débat et qu'on se base sur la réalité, sur ce que nous disent les scientifiques pour débattre. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais au moins débattons de faits, débattons de choses concrètes et pas d'informations qui émanent de groupements d'intérêts économiques, de lobbies qui distille le doute un peu partout, qui empêche les gens de remettre en question des pratiques en semant le doute en permanence sur la fiabilité de telle ou telle information. Je pense que ça, il faut vraiment fermer la porte à ces lobbies et à ces gens qui essayent de nous manipuler et de nous cacher la réalité. Et j'ai envie d'ouvrir la porte à la bienveillance, au fait de se mettre tous ensemble sans chercher à savoir ce qui va pas chez le voisin, sans chercher à savoir ce que le voisin ne fait pas assez bien, pas assez vite, pas assez entièrement, et d'essayer d'encourager de manière systématique toutes les actions qui vont dans le bon sens. Voilà. Peut-être qu'on estime que telle ou telle personne n'en fait pas assez, mais si elle fait quelque chose, c'est déjà très bien, il faut l'encourager dans cette voie. Et je pense que c'est avec la bienveillance et avec l'encouragement mutuel qu'on va arriver à avancer, qu'on va arriver chacun à faire de plus en plus d'efforts, à changer de plus en plus nos modes de vie, nos modes de consommation et à avoir de plus en plus d'impact. Si on est dans la course à l'échalote, à qui sera le plus écolo, le plus vert, si on essaye toujours de rabaisser les actions de quelqu'un parce que par ailleurs il a une voiture ou parce que par ailleurs il a pris l'avion ou parce que par ailleurs il a acheté une bouteille en plastique ou parce que par ailleurs il a mangé de la viande, on n'arrivera à rien en fait, parce que les gens vont se refermer sur eux-mêmes, vont se défendre leur défendre leur quotidien, défendre parce qu'ils vont se sentir attaqués et ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut informer et être dans la bienveillance et encourager chacun à identifier les secteurs sur lesquels on se sent capable d'agir et d'avancer, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avancer. Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de débattre indéfiniment de ce qu'il faut faire. On n'a plus le temps d'attendre. On n'a plus le temps de voir comment ça va se passer. On sait comment ça va se passer. Les scientifiques du monde entier le disent. Ça va mal se passer. C'est ça la réalité. C'est que si on continue au rythme actuel, si on ne change rien de manière importante, ça va mal se passer. Et on le sait, c'est pas un mystère, et ça commence d'ailleurs à mal se passer. On le voit, l'effondrement de la biodiversité tout autour de nous. On voit l'effondrement des écosystèmes, on voit le changement climatique, on voit les conséquences de tout ça. Et on n'en est qu'au début de ces conséquences dramatiques qu'on va subir, que nos enfants, nos petits-enfants vont subir encore plus que nous. Donc, agissons chacun à notre rythme avec bienveillance.
Parfait. Merci beaucoup, Hugo.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !